Ce matin, j'aimerais vous partager pourquoi témoigner au peuple juif et aussi comment le faire. J'aimerais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle Lionel Jumelfarb. J'habite actuellement depuis environ une année et demie à Versailles. Comme cela s'entend peut-être, je viens de Suisse. Donc je suis marié à Valérie. Nous avons trois garçons, Marc, Luca et Noah. Et dans la vie, j'ai de grandes passions. La première est celle simplement de témoigner de Jésus à tout ce qui bouge. Et aussi la deuxième, c'est le sport. C'est une activité qu'avec Valérie, avec les enfants, on aime particulièrement. J'aimerais brièvement, avant de commencer le message, vous partager finalement pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce qui fait que un juif qui a grandi en Suisse, une fois a découvert le Seigneur. Donc, une partie de ma famille, du côté de mon père, sont des juifs d'Ukraine, d'Odessa, le grand port au sud de l'Ukraine, qui, à la fin du 18e siècle, à la fin du 19e siècle, en raison des grandes persécutions, ont décidé de partir, et ils sont partis en Argentine, là où mon grand-père est né, là où ma grand-mère est arrivée à l'âge de 3 ans. Et ils ont pris une sage décision. S'ils étaient venus en Europe, peut-être que je ne serais pas là. Mon père Norberto est né en 41. À Buenos Aires, ce n'était pas un problème. En Europe, il en aurait été probablement différemment. Nous aimons beaucoup les mélanges culturels. Ma maman est moitié suisse, moitié anglaise. Et pour rajouter un peu au mélange, Valérie, ma femme, vient de la partie alémanique de la Suisse. Et donc, mon père est venu en Suisse dans les années 60. C'est là où j'ai grandi. J'ai grandi à Lausanne, au pied du lac et des montagnes. Si vous connaissez un peu la région lémanique, c'est un coin assez sympa. Lac et montagnes. Là, on a trouvé les forêts à Versailles. C'est déjà pas mal. Donc, mon père avait décidé très jeune que Dieu ne l'intéressait pas, qu'il voulait être un libre penseur, qu'il voulait être citoyen du monde. Et donc, même si vous connaissez un peu les coutumes juives, il a refusé de faire sa bar mitzvah. La bar mitzvah est le passage à l'âge adulte d'un point de vue religieux. Ça se fait à 13 ans pour les jeunes garçons juifs. À partir de ce moment-là, le jeune garçon peut participer aux cérémonies de la synagogue. Mon père a dit à mon Zaïde, mon grand-père, « Oublie ». Il n'était pas très content, mon Zaïde, même s'il était peu religieux, même pas du tout. Mais il aurait quand même voulu. Et donc, mon père n'a pas fait sa bar mitzvah et Dieu n'avait vraiment aucune place dans sa vie. Et lui voulait que ce soit la même chose pour nous, que nous ne recevions avec ma sœur aînée, Léonore, aucune éducation religieuse. Et donc, j'ai grandi comme ça à Lausanne, sans rien connaître, que ce soit de la religion de ma maman, qui était d'origine réformée, traditionnelle, ou de mon papa. Et c'est à l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, que j'ai commencé à me poser des questions. Mais finalement, qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de ma vie? Je sentais un vide dans mon cœur et j'ai commencé à chercher dans différentes directions, dans de la philosophie orientale, le bouddhisme, dans différentes choses. Et à chaque fois que je pensais avoir trouvé quelque chose, je retombais au même point. Mon cœur était vide et je ne comprenais pas ce que je faisais ici. Dans les années 90, je me suis très tôt intéressé à Internet. J'ai commencé à discuter avec des gens en ligne. Et j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Sion. Alors, il faut savoir qu'il y a une ville en Valais. Le Valais est un des cantons suisses. C'est environ à 200 km de Genève en direction de l'Italie, au pied des montagnes. Si vous connaissez les stations de ski, Zermatt, Verbier, c'est cette région-là. Et donc, ce jeune homme qui était chrétien est devenu un de mes meilleurs amis. Alors, je n'ai pas fait que discuter virtuellement avec lui. J'allais régulièrement chez lui. Un dimanche après-midi, nous discutions. Il me dit, écoute, il y a une soirée dans une église à Lausanne. Est-ce que ça te dirait d'y aller? Je me suis dit, bon, j'ai essayé plein de choses. Ça ne m'a rien apporté. Allez, on va voir. Et sincèrement, je ne sais plus vraiment ce qui s'est dit cette soir-là. mais je sais que Dieu m'avait fixé un rendez-vous. Il m'a touché par son amour. J'ai ressenti un amour tellement profond, un amour que j'avais jamais connu, que le vide que j'avais dans mon cœur a été complètement rempli. Et ça a été pour moi vraiment une expérience forte de découvrir cet amour qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limitations, qui n'a pas de si ou de... qui est vraiment inconditionnel. Et puis, ça en est un peu resté là. J'ai fait une ou deux soirées. Ça n'a pas beaucoup bougé dans ma vie. Une année et demie après, un des responsables de cette soirée, avec qui j'étais resté en contact, m'invite dans un groupe de maison pour étudier la Bible. Je me dis, quelque chose dans ma vie ne joue pas. Je ne sais pas vraiment quoi, mais il y a quelque chose qui n'est pas comme ça devrait être. Et je sentais un peu le vide qui revenait. Et Dieu m'avait fixé un autre rendez-vous. Le premier soir de ce groupe de maison, le responsable demande, « J'aimerais qu'on ait chacun la même base. Est-ce que vous avez tous choisi de suivre Jésus de tout votre cœur ?» Alors, je pense pour la plupart d'entre vous, ça a certainement une signification assez claire. Mais quand on n'a jamais ouvert une Bible et mis peut-être une ou deux fois les pieds dans une église, ce n'est pas le cas. Mais on a un grand Dieu qui se révèle. Et ce soir-là, j'ai clairement compris ce que ça signifiait de suivre Jésus, de lui laisser toute la priorité, de vraiment se tourner vers lui, le mettre au centre de nos vies, commencer à marcher avec lui, à le découvrir à travers la parole, etc. J'ai compris sur le moment ce que ça signifiait. Et j'ai compris surtout que c'était ce que je désirais le plus au monde. Et là, comme je dis un peu avec le sourire, je n'ai pas commencé à marcher, j'ai commencé à courir. J'avais soif de découvrir sa parole, soif de découvrir qui était ce Dieu merveilleux. Et on est en 2003, on était en 2003, 15 ans après, 16 ans après maintenant, je n'ai jamais regretté une seule seconde cette décision. Et c'est toujours, je suis toujours aussi passionné de ce que j'ai découvert. J'ai découvert aussi le sens profond de ma vie. C'est simplement de partager ce trésor que j'ai découvert avec d'autres personnes. Et Dieu m'a donné l'opportunité de faire mes deux passions, mon métier. Quand j'étais en Suisse, je travaillais à temps partiel comme pasteur. Pour la petite anecdote, le père de cet ami était pasteur dans une église à Sion. Et juste après mes études, j'ai repris cette église pour développer un côté francophone. En tant que juif messianique, j'étais pasteur à Sion. Dieu a beaucoup d'humour. Et l'autre passion, j'ai pu travailler à temps partiel comme instructeur de fitness. Et là aussi, de manière différente, être un témoin pour ceux que je voyais dans mes cours ou à la salle de fitness. Et donc, voilà, en 2017, Dieu a ouvert la porte pour que je rejoigne Juifs pour Jésus. Ça faisait plusieurs années que j'avais à cœur de rejoindre cette association que j'avais rencontrée pendant mes études à Emmaüs. C'est un institut biblique au bord du lac Léman, au-dessus de Vevey. Et Dieu m'avait vraiment mis à cœur à un moment d'être un témoin auprès de mon peuple, auprès de découvrir ses racines que je connaissais peu. Et j'ai la chance, depuis l'été 2017, de travailler avec la mission Juifs pour Jésus à Paris. Je vous expliquerai un peu après mon message, quand je présenterai la mission, pourquoi Paris. Ceux qui connaissent la Suisse, je clôrai avec cette anecdote, cette partie. Mais tous mes amis non-chrétiens m'ont dit, mais t'es complètement fou, qu'est-ce que tu quittes le Valais pour aller à Paris? T'as quelque chose qui ne joue pas chez toi. Et même une partie de mes amis chrétiens avaient de la peine à comprendre que je puisse quitter la Suisse, quitter cette église ou ce que je faisais pour rejoindre Paris. Mais je ne l'ai jamais regretté. Donc ce matin, j'aimerais prendre trois parties pour expliquer pourquoi, d'abord, pourquoi témoigner auprès du peuple juif, pourquoi l'église devrait en faire une priorité, et aussi après, comment le faire. Parce que si on a le pourquoi, mais qu'on n'a pas quelques outils pour savoir comment le faire, ce n'est pas très pratique. Et j'aimerais aussi vous encourager vous-même à être des témoins auprès du peuple juif. Donc la première partie sera sur l'élection et la mission d'Israël, la mise à part d'Israël et la mission que Dieu lui a donnée. La deuxième partie sera sur pourquoi prioriser le témoignage auprès du peuple juif. Puis la troisième sur l'aspect pratique. Comment évangéliser ? La base biblique pour faire une priorité de l'évangélisation du peuple juif dépend de sa position en tant que peuple élu, mis à part pour Dieu, avec une mission à accomplir. Sur quoi est-ce que je me base pour dire qu'Israël est le peuple que Dieu s'est mis à part ? Est-ce que cette élection est toujours valable ? Et si oui, quelle est la mission que Dieu a confiée au peuple juif ? Nous allons le voir à travers différents textes du Tanakh, la Bible hébraïque, et du Nouveau Testament. Je fais peut-être une petite parenthèse. Si je vous parle de Tanakh, c'est le mot qu'on utilise en hébreu pour la Bible hébraïque. Il n'y a pas de mot en hébreu pour Bible. Tanakh est un acronyme pour Torah, donc les cinq livres de Moïse. Neviim, ce sont les prophètes, et Ketuvim, ce sont les écrits. Les écrits, c'est les psaumes, c'est le livre d'Esther, par exemple, c'est les proverbes, etc. D'accord ? Donc, on parle, quand on parle de l'Ancien Testament, nous disons plutôt le Tanakh. Bon. Et n'essayez pas de parler à un Ancien Testament à un juif, il ne va pas être d'accord avec vous. Et ça, je pense que vous vous en doutez. Donc, je tiens aussi à préciser, et c'est important, que l'élection ne signifie pas le salut. Comme Jésus l'a montré tout au long de son ministère, il n'y a qu'un seul chemin de salut, et c'est le même pour tous, que qu'on soit juif ou non juif. Cela passe par lui, Jésus, Yeshua, le Messie d'Israël et des nations. Donc, dans cette première partie, j'aimerais aborder courtement trois points. Premièrement, l'élection d'Israël, le fait que ce soit le peuple choisi par Dieu est une grâce. Israël a été choisi par grâce pour se tenir dans une relation spéciale avec Dieu. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient meilleurs, parce qu'ils étaient différents, parce que ci ou parce que ça. Ils ont été choisis par grâce. Dans Genèse, dans Deutéronome 6, 7, les versets 6 et 7, Dieu dit ceci. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Et on retrouve ceci sous une autre forme dans le Deutéronome au chapitre 14. Donc, premièrement, si le peuple d'Israël a été choisi, c'est pas simplement parce que Dieu l'a décidé. Il n'y avait aucune raison, c'est sa grâce. Comme Dieu a choisi chacun d'entre nous pour être son enfant, sans mérite de notre part, Dieu a choisi Israël. Alors, quelle était la mission que Dieu avait fixée au peuple d'Israël ? La mission était de servir les desseins de Dieu parmi les nations. L'élection d'Israël n'était pas pour son salut, mais était pour le service. Israël devait être le vase de Dieu pour apporter la bénédiction à toutes les nations. Dans Genèse 12, on trouve l'Éternel qui dit à Abraham, à ce moment-là, qui est encore appelé Abraham, ou en hébreu, Avram. Je ne vais pas vous donner un cours d'hébreu ce matin, ce ne serait pas le lieu. Mais si cette langue vous touche, n'hésitez pas à l'étudier, c'est une langue absolument magnifique. Et on a la possibilité dans des ulpanes, ce sont les écoles de langue de la communauté juive qui sont ouvertes à des non-juifs, d'étudier l'hébreu moderne. C'est ce que je fais en ce moment et c'est quelque chose qui est très touchant. Voilà, petite parenthèse. Donc, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Selon Exode 19:6, Israël devait être une nation de prêtres missionnaires, intercédant pour les nations. Les prêtres sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre le peuple et Dieu. Israël devait être une source de bénédiction pour les nations, ceux qui présentaient Dieu aux nations. Dans Ésaïe 42, on peut lire « Moi l'Éternel, moi je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être une lumière pour les nations. » Israël avait une autre chose à accomplir, très importante. Israël devait faire naître le Messie, l'acte ultime pour bénir le monde. Israël serait le peuple à travers lequel Dieu apporterait le salut. On peut aussi lire, Dieu dit, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Dans Ésaïe, 700 ans avant la naissance du Messie, on avait déjà la mission du Messie d'Israël. Effectivement, Israël n'a pas accompli sa mission. On peut le dire qu'Israël a en grande partie échoué. Toutefois, le Messie est venu d'Israël. Et à travers cela, Israël a accompli et est encore en train d'accomplir sa mission. Le troisième point que j'aimerais courtement aborder ce matin, c'est le fait que l'élection n'est pas annulée. On pourrait le penser parce qu'Israël a échoué dans sa mission, que finalement Dieu l'a complètement rejeté. Mais ce n'est pas le cas. Même si Israël a dans cette mission d'être une lumière pour les nations, pour amener la Torah, la loi de Dieu aux nations, elle n'a pas échoué parce qu'elle n'a pas pu respecter la Torah. Cela n'a pas compromis le fait que Dieu s'était mis à part le peuple d'Israël. Et Dieu a toujours un plan pour Israël. Effectivement, comme je l'ai dit, ils n'ont pas vécu la Torah ni prêché la Torah. On le voit dans le livre des Juges, donc déjà très tôt, un des premiers livres historiques. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim et déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. » Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous démolirez leur autel. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. Mais la mission d'Israël a été poursuivie par le reste des fidèles. Encore aujourd'hui. Il y a un reste choisi par la grâce et aussi ceux qui ont été incorporés dans une nouvelle communauté spirituelle. Si je parle de reste choisi par la grâce, je parle des Juifs messianiques. Vous en avez un devant vous. Et si je parle d'une nouvelle communauté, c'est tout simplement vous qui, en tant que disciples du Messie d'Israël, avez été incorporés dans la communauté de l'Éternel. Est-ce que nous avons dans le Nouveau Testament aussi une trace de cette question? Oui. Paul l'aborde très clairement dans Romains 11. Et je pense que c'est un texte important dans Romains 11, 1 à 5. Paul pose cette question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Et sa réponse est extrêmement claire. Assurément pas. Ou vous pouvez l'imaginer en lettres noires, bien en gras, dans un gros caractère, non. Ou si vous voulez en hébreu, lo. Pas du tout. En effet, Paul nous dit, « Ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin ?» Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie dans lequel celui-ci se plaint au sujet d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le dieu Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Je pourrais citer dans ce reste Yohanan, Jean, Matthihayou, Matthieu, etc. Je pourrais citer Kephas, Pierre. Tous sont des restes de cet Israël que Dieu n'a pas rejeté, mais qu'il s'est mis à part par la grâce. Et après, tous les autres apôtres, qui tous étaient juifs, ainsi que tous les auteurs du Nouveau Testament. On dit à part Luc, mais bon, Luc était médecin, donc peut-être qu'il était aussi juif, on ne sait pas. Et donc, pour conclure cette première partie, je dirais que tant que les lois naturelles subsistent, l'élection d'Israël reste. Le jour où vous arriverez à grimper hors de la gravité, on pourra commencer à discuter. Mais tant que l'eau restera dans la mer et tant que la pluie tombera vers le bas, les lois naturelles subsistent et l'élection subsiste aussi. Dieu reste fidèle à son peuple, même si son peuple reste infidèle. Et voici ce qu'il nous écrit dans Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel qui place le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si on peut mesurer le ciel là-haut et si on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi je rejetterai toute la descendance d'Israël pour ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Je crois que nous avons vu quelle était l'élection d'Israël, quelle était sa mission. Et passons à un deuxième point. Pourquoi, en tant qu'Église, devrions-nous prioriser le témoignage auprès du peuple juif? J'aimerais le voir à travers le texte de Romains 1:16. Je vais vous le lire après, mais j'aimerais d'abord citer quelque chose qui me touche particulièrement. Est-ce que vous avez entendu parler de Hudson Taylor, le grand missionnaire auprès du peuple chinois? C'est le premier missionnaire des temps modernes qui se fit tout à tous. Il s'est habillé comme les Chinois, il a parlé le chinois, etc. Est-ce que vous savez que ce fondateur de la mission OMF, au début de chaque année, faisait une chose? Il faisait un don à une mission à Londres, à une mission parmi le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il citait? La fin de Romains 1:16, aux Juifs d'abord ou aux Juifs premièrement, selon les traductions. Et d'ailleurs, le responsable de cette mission auprès du peuple juif, faisait un don à la mission qui s'appelait à l'époque China Inland Mission, en citant et aux non-juifs ou aux grecs aussi. Donc ce grand missionnaire qui avait un appel auprès des Chinois était très conscient de la priorité biblique aux juifs d'abord. Donc regardons brièvement Romains 1:16. Car je suis fier de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Alors, il y a plusieurs positions quand on parle des juifs d'abord. Certains disent, bon, c'était une question chronologique, donc c'était valable à l'époque. D'abord, on devait amener l'évangile au peuple juif, puis après, on devait s'occuper de tous les autres. Et il y a différentes autres positions qui disent, bon, ben maintenant, ce n'est plus le cas. Après, si on regarde Paul, l'évangile avait commencé à Jérusalem. Mais je vais simplement citer ça. Si vous regardez dans les Actes, qu'est-ce que fait Paul chaque fois qu'il arrive dans une ville? Il va d'abord à la synagogue. Alors que finalement, Jérusalem avait été atteinte. On considère que la première église avait atteint une grande partie de Jérusalem. Donc si on prend que c'était valable, bon, on s'occupe de Jérusalem, puis après on va ailleurs, ça c'était réglé. Pourtant, Paul continue à aller d'abord auprès de son peuple, même s'il dit clairement, mon appel, je suis le témoin, l'apôtre des non-juifs. mais il commençait toujours par la synagogue. Donc, il y a aussi, on le voit, Dieu a choisi Israël. On l'a vu dans cette première partie, Dieu l'a mis à part. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous pourrez relire les textes de Deutéronome 7 et les autres que j'ai cités. La deuxième chose, rappelons-nous d'une chose, Jésus a dit lui-même, le salut vient des Juifs. Il l'a dit à la Samaritaine en Jean 4, 22, et il avait même dit un peu plus tard, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Heureusement pour vous, il a quand même, on va dire, c'était comme on appelle une hyperbole. Et il l'a montré clairement après que l'évangile était pour tous. C'est le grand changement de la Nouvelle Alliance. La première alliance était pour le peuple juif. Mais la Nouvelle Alliance est pour les juifs et les non-juifs. Et donc, mais la Nouvelle Alliance reste promise à Israël en premier lieu. La base de cette Nouvelle Alliance se trouve dans le texte de Jérémie, où Dieu parle à travers le prophète et dit ceci, en Jérémie 31. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue. Alors que moi, j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. » Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Dieu a-t-il rejeté Israël? Je crois que nous avons eu clairement la réponse dans le texte de Romains 11. Non. Et d'ailleurs, il rajoute au sujet de leur désobéissance en Romains 11, 12. « Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse encore plus grande n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement ?» La nouvelle alliance est éternelle, comme on l'a vu en Jérémie 31 et comme on l'a vu dans ces textes. Alors, il y a encore une question à se poser. Je vais revenir brièvement, ça pourrait faire tout un message. L'Église a-t-elle remplacé Israël? Parfois, on entend que maintenant, l'Église, c'est Israël, donc les promesses concernant Israël concernent maintenant l'Église, le corps du Messie en sa globalité, donc le reste d'Israël ne rentre plus en compte. Mais je crois que, clairement, si on regarde les textes, l'Église n'est pas Israël et Israël n'est pas l'Église. Et je vais finir cette partie par cela. Romains 11, 25 à 29. « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Donc, on voit dans ce texte qu'il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des non-juifs, des païens, soient entrés dans l'alliance, tous ceux qui doivent y rentrer. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et c'est une citation d'Ésaïe 59. Je rappelle toujours, quand on cite Ésaïe et quand on voit tellement dans ce prophète le Messie, Ésaïe a été écrit plus de 700 ans avant la naissance de Yeshua. La puissance de Dieu est quand même intéressante. 700 ans avant le Messie. Et on voit des textes, si vous lisez par exemple Ésaïe 53, qui parlent tellement clairement de Jésus. Et donc, en ce qui concerne l'Évangile, ils, de nouveau, certainement Israël, sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Donc, Israël, c'est le peuple juif. Et donc, il est aussi logique que la deuxième citation est « Tout Israël sera sauvé » soit de même. Puis on a ce « ils »,« ils sont ennemis ». Ils représentent de nouveau le peuple juif et non pas l'Église, parce que sinon, le verset 28, voici comment nous devrions le comprendre. L'Église est ennemie à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, l'Église est aimée à cause de leur père. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens. En tout cas, pour moi, ça ne me fait pas un grand sens comme ça. Je ne sais pas ce que vous en dites. Bon. OK. J'aimerais prendre un dernier point. Ne confondez pas, comme je l'ai dit, l'élection et le salut. Il est clair que le salut ne passe que par Yeshua, que l'on soit juif, non-juif, que l'on soit des nations, que l'on soit d'Orient, que l'on soit d'origine musulmane, bouddhiste, amérindienne, ou tout ce que vous pouvez imaginer. On n'a pas encore découvert les petits hommes verts, mais probablement, si l'on en découvrait, ils seraient concernés la même chose que nous. Ça ne passe que par Jésus. Oui, l'Israël a été mis à part, le peuple a été mis à part, mais comme Jésus l'a montré très clairement, ce n'est qu'à travers le Messie d'Israël qu'Israël pourra vraiment avoir une relation personnelle avec son Dieu, avec l'Éternel. Et donc, le résultat, si en tant qu'Église, nous priorisons le témoignage auprès des Juifs, ce sera une bénédiction pour toute l'Église dans la Nouvelle Alliance et dans la Première Alliance. Ce sera la résurrection des morts. Ce sera une bénédiction puissante pour l'Église. Et je crois que chacun désire recevoir ces bénédictions de Dieu qui, elles, ne passeront pas. Nous le savons, le Seigneur nous a enseigné, tout ce qui est de ce monde passera. Les richesses que nous pouvons accumuler dans ce monde passeront. Mais le trésor que nous mettons au ciel, lui, ne passera pas. Et ni la rouille, ni l'ennemi ne pourra jamais nous l'enlever. J'aimerais maintenant conclure et passer à ce troisième point. Passons un peu à la pratique. Comment témoigner au peuple juif? Premièrement, pour témoigner au peuple juif, il faut savoir identifier les juifs et comprendre leur culture et leur religion. Je viendrai dans un dernier point sur quelques défis, quelques obstacles sur le témoignage auprès des Juifs. Un obstacle très simple, si par exemple vous me dites « Lionel, c'est bien, mais moi je ne connais aucune personne juive. » Il y a toujours un moyen, je vous l'expliquerai. C'est comme si vous vous rappelez hier soir, les rabbins ont toujours une solution fantastique. Alors je ne suis pas rabbin, je n'ai pas de solution à tout, heureusement, mais pour cela j'ai une solution, je vous en parlerai après. Donc, l'apôtre Paul exprime le principe qui doit éclairer tout témoignage du chrétien, surtout celui du chrétien vers une autre culture. Et j'aimerais vraiment souligner, les juifs qui nous entourent parlent notre langue, ils vivent parmi nous, mais il y a une différence qui peut être peu ou très profonde entre notre culture et la leur. Ou peut-être votre culture. Je suis venu de Suisse en France, on parle la même langue, mais il y a des fois où j'ai eu quelques surprises. Si vous êtes parti dans un autre pays francophone, par exemple en Afrique, où ils parlent la même langue, on a quelques surprises aussi au niveau langage. Pour une parenthèse intéressante, moi je parle que je parque ma voiture. Quand mes collègues m'ont entendu, ils m'ont regardé un peu de travers. Bon, oui, effectivement, alors je garerai ma voiture, je vais vous faire plaisir. Donc voilà, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 19 à 22, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner le salut des Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je me suis fait tout à tous, afin de gagner de toute manière quelques-uns. » L'Évangile ne se change pas. La bonne nouvelle reste toujours la même. Mais la manière dont nous l'apportons, doit être adapté à la personne que nous cherchons à atteindre. Pour l'adapter, il est nécessaire de connaître la personne à qui nous nous adressons. D'où l'importance de connaître la culture juive, la religion juive, le judaïsme moderne, qui est assez différent, je reviendrai là-dessus, du judaïsme biblique, du judaïsme de la première alliance. La première chose, et qui est une clé fondamentale, c'est la prière. Alors, ce ne sera de loin pas que valable. Une grande partie des outils que je vous donne seront valables pour d'autres peuples que le peuple juif. Mais si vous ne priez pas avant d'aller témoigner à quelqu'un, même quelqu'un que vous connaissez bien, un collègue de travail, vous ne laissez pas Dieu préparer son cœur. À travers notre prière pour la personne que l'on veut atteindre, nous permettons à Dieu de préparer son cœur et surtout de préparer notre cœur pour être sensible à la personne, pour se laisser guider par Dieu. Commencez par prier pour la personne que vous avez à cœur, à la personne que vous aimeriez atteindre, à ce voisin que vous voyez régulièrement, à qui vous avez peut-être déjà passé un barbecue durant l'été et que vous aimeriez bien aller un peu plus loin, un peu plus profondément. Commencez par prier pour cette personne, pour que Dieu ouvre la bonne porte de la bonne manière. Et ensuite, c'est vraiment l'amour. Il nous faut aimer ceux que l'on veut atteindre. Si nous n'avons pas d'amour pour ces gens, même s'ils sont différents, même s'ils ont des manières de faire qui peuvent, comme on le dit, nous hérisser le poil, ça se dit aussi en France ? D'accord. Il y a des gens qu'on a de la peine à aimer. Et je crois, et j'en suis même convaincu, que l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un choix. Faites le choix d'aimer cette personne que vous aimeriez atteindre. Même si la personne ne le mérite pas, même si la personne est plutôt désagréable. Un très bon exemple, c'est mon propriétaire. Le propriétaire de notre appartement est de loin pas la personne la plus agréable que je connaisse. Je l'ai eu au téléphone parfois, j'ai eu besoin de ses services. Il y a des fois, il n'a vraiment pas fait ce qu'il devrait faire. Quand je l'ai eu au téléphone pour l'appartement, franchement, j'avais dit, c'est mort. On oublie. Et Dieu avait choisi que nous aurions cet appartement. Je n'ai pas le temps ce matin. Si vous voulez savoir comment, venez vers moi après. C'est une belle histoire aussi de la fidélité de Dieu. Mais vraiment, cet homme est désagréable. Et pourtant, je fais le choix de l'aimer parce que je sais que c'est une personne précieuse pour Dieu. Faites-le aussi de façon pratique. Il faut aimer en parole, il faut aimer en acte. Si on aime juste de manière théorique, je ne suis pas sûr que la personne va se rendre compte que vous l'aimez. Ça peut être simplement de lui offrir un café, ça peut être pour un voisin lui proposer un service. Ça peut être de vous trouver peut-être une passion commune avec cette personne. Si elle aime bien, je l'emmènerai courir dans les bois. Je ne l'y laisserai pas dans les bois, vous rassurez-vous. Enfin, je prendrai Valérie pour nous faire sortir du bois. Moi, je m'y perds dans le bois, mais... Voilà. Ensuite, et c'est important, parlez de Jésus. N'ayez pas peur. Vous êtes préparé dans la prière, vous vous êtes préparé dans votre cœur. N'ayez pas peur de parler de Jésus, de parler de ce qu'il représente pour vous. C'est un des derniers passages que j'aimerais vous lire, mais on l'a déjà lu ce matin, mais j'aimerais le relire parce qu'il est tellement, tellement important. Dans Romains 10, les versets 14 et 15, ça a déjà été cité ce matin et c'est quelque chose qui pour moi est vraiment important. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour l'annoncer? Osez parler de Jésus de la bonne manière, au bon timing, comme Dieu vous guidera. Et encore deux points, j'aimerais que vous soyez convaincus de votre cœur. Si vous avez un doute, demandez à Dieu de vraiment vous le révéler. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous révèle les choses. Jésus est pour les Juifs. Trop de fois, on a entendu, non, Jésus n'est pas pour les Juifs. Même dans l'Église, les Juifs ont leur propre alliance. C'est pas à nous d'aller leur parler. Ou après la première guerre, après la deuxième guerre mondiale, après la Shoah, l'Église chrétienne a perdu toute légitimité pour témoigner au peuple juif. C'est faux. Ce sont simplement des mensonges. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à l'Éternel. Et pour les Juifs, s'ils n'entendent pas parler de Jésus, ils ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc leur dire non, on ne parle pas de Jésus aux Juifs, c'est leur dire « Bienvenue dans la perdition ». Et c'est ça, la véritable haine. Je le soulignerai encore et encore. Si vous lisez le Nouveau Testament les yeux ouverts, c'est un livre juif pour les Juifs. Il transpire la culture juive, il transpire notre histoire. Peu de gens les lisent beaucoup, mais lisez simplement les généalogies de Matthieu 1. Vous faites lire ça à une personne juive, elle vous dira « Tiens, mais c'est un livre juif, ça ». Il y a plein de choses dans le Nouveau Testament qui montrent que c'est un livre juif. Et apprenez à connaître, comme je l'ai dit, apprenez à connaître la manière dont les Juifs vivent leur judaïsme aujourd'hui. On a plein de livres pour ça, on a plein de possibilités. Pour ceux, si une fois c'est quelque chose qui, en tant qu'Église, vous intéresse, on a des séminaires qu'on propose pour, sur une journée, vraiment équiper les églises pour témoigner auprès du peuple juif, pour expliquer quelle est la différence entre le judaïsme biblique et le judaïsme moderne. Ce n'est souvent pas la même chose. Et finalement, j'aimerais vous dire, soyez pratiques, soyez courageux. Offrez-leur de la littérature, invitez-les à manger. Des choses pratiques, la manière pratique de témoigner. Il y a une grande différence entre un évangéliste et un témoin. L'évangéliste sera envoyé vers ceux qu'il ne connaît pas du tout. Il parlera aux étrangers dans la rue. C'est un don que Dieu donne. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Mais Dieu nous appelle à être des témoins auprès de ceux que nous connaissons, auprès de ceux qui nous entourent. Ce sont des gens qui vous connaissent. Peut-être que votre collègue, si vous ouvrez les yeux, vous avez un collègue qui est juif. Peut-être que vous avez un voisin qui est juif. Peut-être que vous ne l'avez pas su parce que ce n'est pas quelque chose qui vous tenait à cœur et qu'effectivement, souvent, les personnes juives, surtout dans les temps actuels, ne se montrent pas trop. Mais demandez à Dieu. Et je sais qu'il vous en mettra sur votre chemin. Je vais brièvement finir par quelques points. Une question, pourquoi est-ce que les Juifs ne croient pas en Jésus ? Eh bien, tout simplement pour la même chose que tous les autres, principalement à cause du péché. Si on prend la version juive de la même question, c'est pourquoi est-ce que les rabbins n'acceptent-ils pas Jésus à cause du péché? Comme je vous l'ai dit, le judaïsme moderne n'est pas vraiment biblique. Il y avait une interview d'un rabbin dans la Tribune juive qui faisait des recherches sur les 10 tribus d'Israël, les 10 tribus perdues, et il disait ceci. Le judaïsme a beaucoup évolué depuis notre séparation avec les 10 tribus. Ils ne connaissent pas la loi orale, la base du judaïsme moderne. La loi orale qui a été mise par écrit dans le Talmud, c'est ceci que la plupart des Juifs, même les religieux, étudient, et pas forcément la Bible. Et le judaïsme moderne est différent du judaïsme biblique, de l'alliance du Tanakh. Alors, vous allez peut-être me dire, ben Lionel, moi j'ai pas de contact juif, j'en connais pas. Comme je vous l'ai dit, priez. Priez pour des contacts. Priez que Dieu peut-être vous montre que finalement, quelqu'un de votre entourage est juif et vous ne le saviez pas. Priez aussi pour nous. Nous pouvons être vos mains, nous pouvons être vos bouches auprès du peuple juif, ici à Paris, à Marseille. Marseille est un peu plus proche. Accessoirement, je vous dirai pourquoi j'ai choisi Paris, mais Marseille, c'est 100 000 personnes juives. Ça fait une certaine population. Et il y a aussi cette expression « marcher dans les sandales », se mettre à la place de ces personnes. essayer de comprendre ce que vivent les personnes juives actuellement, dans ce temps où l'on voit l'antisémitisme qui grandit et grandit, et que pour beaucoup de personnes, ça fait peur. Beaucoup des personnes juives ont peur en ce moment. Ces dernières semaines, on entend quasiment tous les jours quelque chose. Tous les jours, on entend plus. Et marcher dans les sandales, c'est se mettre à la place de la personne. D'ailleurs, c'était intéressant, c'était l'expression utilisée par un musulman envers un chrétien. Ce chrétien, c'était Josué, mon chef, qui est juif. Mais bon, voilà, voilà. Je crois que vraiment aussi, prioriser ce témoignage auprès des juifs. Bien sûr, chaque nation est importante et Dieu aime chaque être humain. Mais je crois qu'il a un plan spécial pour notre peuple et que ce sera une bénédiction pour l'Église quand de plus en plus de Juifs se tourneront vers Jésus. Bien sûr, il y a les temps de la fin, c'est dit, tout Israël sera sauvé. Quand c'est que sera la fin? Moi, je ne le sais pas, je ne pense pas que l'un de vous le sache. D'ici là, qu'allons-nous faire de tous les Juifs qui mourront? Et il peut y avoir des craintes, et je peux le comprendre. Les Juifs sont le peuple du livre, ils connaissent tellement mieux la Bible que moi, etc. Je vous rassure, ceux qui la lisent, généralement, ils ne la comprennent pas. Et la plupart ne la lisent pas du tout. Le seul moment où la Bible est lue, c'est généralement à la synagogue, et c'est en hébreu. Donc tous ceux qui ne maîtrisent pas l'hébreu, déjà, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Dans certains milieux juifs, c'est traduit, mais parfois, ça ne l'est même pas. Et s'ils lisent, généralement, ce sera juste la Torah, les 5 premiers livres. Donc tous les prophètes, etc., ils ne le liront pas. Très peu de juifs lisent la Bible à la maison. C'est très rare. Et s'ils lisent, ils vont lire la paracha, donc le passage de la Torah de la semaine, et le passage des prophètes qui est lié à ça. Rassurez-vous, les rabbins ont trouvé une très belle solution. Tous les passages qui semblent concerner le Messie ne sont plus lus dans les synagogues. Ésaïe 53 n'est plus du tout lu dans les synagogues. La plupart des Juifs, si vous leur dites Ésaïe 53, ils vont dire « Ouh, ça c'est le passage que les chrétiens utilisent pour nous convertir ». Mais si vous leur lisez le texte, ils vont être hallucinés. Excusez-moi du terme, mais ils vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais entendu parler. Mais ça parle de Jésus, ça. Ça c'est certainement, bon, c'est le Nouveau Testament. » Ben non, c'est parmi les prophètes. Et souvent, en fait, ils confondent la tradition orale, le Talmud, avec la Bible. Un exemple très simple, pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple d'Israël? On l'avait dit, par grâce. Rassurez-vous, le Talmud dit que c'est par mérite. Qu'en fait, tous les peuples de la terre, Dieu a demandé à tous les peuples de la terre s'ils voulaient faire alliance avec lui, ils ont tous dit non. Et notre peuple juif a accepté. Voici ce concerne la tradition orale. Je vous laisserai voir ce qu'il en est. Voilà. J'aimerais finir là-dessus et vous encourager. Soyez des témoins auprès du peuple juif. Si vous aimeriez en savoir plus, je présenterai brièvement après Juifs pour Jésus. N'hésitez pas à venir vers moi et à devenir nos partenaires, à prier pour nous. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est la base. Je reviendrai chaque fois là-dessus, la prière. Si vous voulez des témoins, commencez par prier, mais mettez-vous en action. En action et en parole. Amen.